La conquête du pain. Cinquième partie, chapitre 6. Mais revenons à notre cité révoltée et voyons dans quelles conditions elle devra pourvoir à son entretien. Où prendre les denrées nécessaires si la nation entière n'a pas encore accepté le communisme ? Telle est la question qui se pose. Prenons une grande ville française, la capitale si l'on veut. Paris consomme chaque année des millions de quintaux de céréales, 350 000 bœufs et vaches, 200 000 veaux, 300 000 porcs et plus de 2 millions de moutons, sans compter les animaux abattus. Il faut encore à ce Paris quelque chose comme 8 millions de kilos de beurre et 172 millions d'œufs, et tout le reste dans les mêmes proportions. Les farines et les céréales arrivent des États-Unis, de Russie, de Hongrie, d'Italie, d'Égypte, des Indes. Le bétail est amené d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, voire même de Roumanie et de Russie. Quant à l'épicerie, il n'y a pas un pays au monde qui ne soit mis à contribution. Voyons d'abord comment on pourrait s'arranger pour ravitailler Paris ou toute autre grande cité des produits qui se cultivent dans les campagnes françaises et que les agriculteurs ne demandent pas mieux que de livrer à la consommation. Pour les autoritaires, la question n'offre aucune difficulté. Ils introduiraient d'abord un gouvernement fortement centralisé, armé de tous les organes de coercition, police, armée, guillotine. Ce gouvernement ferait faire la statistique de tout ce qui se récolte en France, il diviserait le pays en un certain nombre d'arrondissements d'alimentation et il ordonnerait que telle denrée, en telle quantité, soit transportée en tel endroit, livrée tel jour, à telle station, reçue tel jour par tel fonctionnaire, emmagasiné dans tel magasin, et ainsi de suite. Eh bien, nous affirmons en pleine conviction que non seulement une pareille solution ne serait pas désirable, mais qu'en outre, elle ne pourrait jamais être mise en pratique. Elle est pure utopie. On peut rêver un pareil état de choses, plume en main, mais en pratique, cela devient matériellement impossible. Il faudrait compter sans l'esprit d'indépendance de l'humanité. Ce serait l'insurrection générale. 3 ou 4 Vendées au lieu d'une. La guerre des villages contre les villes. La France entière insurgée contre la cité qui oserait imposer ce régime. Assez d'utopie jacobine. Voyons si on ne peut pas s'organiser autrement. En 1793, la campagne affama les grandes villes et tua la Révolution. Il éprouvait cependant que la production des céréales en France n'avait pas diminué en 1792-93. Tout porte même à croire qu'elle avait augmenté. Mais, après avoir pris possession d'une bonne partie des terres seigneuriales, après avoir récolté sur ces terres, les bourgeois campagnards ne voulurent pas vendre leur blé pour des assignats. Ils le gardaient en attendant la hausse des prix ou la monnaie d'or. Et ni les mesures les plus rigoureuses des conventionnels pour forcer les accapareurs à vendre le blé, ni les exécutions n'eurent raison de la grève. On sait cependant que les commissaires de la Convention ne se gênaient pas pour guillotiner les accapareurs, ni le peuple pour les accrocher aux lanternes. Et cependant, le blé restait dans les magasins et le peuple des villes souffrait de la famine. Mais qu'offrait-on aux cultivateurs des campagnes en échange de leurs rudes travaux ? Des assignats, des chiffons de papier dont la valeur tombait tous les jours, des billets portant 500 livres en caractère imprimé, mais sans valeur réelle. Pour un billet de 1000 livres, on ne pouvait plus acheter une paire de bottes. Et le paysan, cela se comprend, ne tenait nullement à échanger une année de labeur contre un morceau de papier qui ne lui aurait même pas permis d'acheter une blouse. Et tant qu'on offrira au cultivateur du sol un morceau de papier sans valeur, qu'il s'appelle assignat ou bon de travail, il en sera de même. Les denrées resteront à la campagne, la ville ne les aura pas, dût-on recourir de nouveau à la guillotine et aux noyades. Ce qu'il faut offrir aux paysans, ce n'est pas du papier, mais la marchandise dont il a besoin immédiatement. C'est la machine dont il se prive maintenant à contre-cœur. C'est le vêtement, un vêtement qui le garantisse des intempéries. C'est la lampe et le pétrole qui remplacent son lumignon, la bêche, le râteau, la charrue. C'est enfin tout ce que le paysan se refuse aujourd'hui, non pas qu'il n'en sente le besoin, mais parce que dans son existence de privation et de labeur exténuant, 1000 objets utiles lui sont inaccessibles à cause de leur prix. Que la ville s'applique sur le champ à produire ces choses qui manquent aux paysans, au lieu de façonner des colifichets pour l'ornement des bourgeoises. Que les machines à coudre de Paris confectionnent des vêtements de travail et du dimanche pour la campagne, au lieu de faire des trousseaux de noces. Que l'usine fabrique des machines agricoles, des bêches et des râteaux, au lieu d'attendre que les Anglais nous en envoient en échange de notre vin. Que la ville expédie au village, non des commissaires, ceints d'écharpes rouges ou multicolores, signifiant aux paysans le décret de porter ses denrées à tel endroit, mais qu'elle les fasse visiter par des amis, des frères, disant « Apportez-nous vos produits et prenez dans nos magasins toutes les choses manufacturées qui vous plairont. » Et alors, les denrées afflueront de toutes parts. Le paysan gardera ce qu'il lui faut pour vivre, mais il enverra le reste aux travailleurs des villes, dans lesquelles, pour la première fois dans le cours de l'histoire, il verra des frères et non des exploiteurs. On nous dira, peut-être, que cela demande une transformation complète de l'industrie. Certainement, oui, pour certaines branches. Mais il y en a 1000 autres qui pourront se modifier rapidement, de manière à fournir aux paysans le vêtement, la montre, l'ameublement, les ustensiles et les machines simples que la ville lui fait payer si cher en ce moment. Tisserand, tailleur, fabricant de chaussures, quincailler, ébéniste et tant d'autres ne trouveront aucune difficulté à laisser la production de luxe pour le travail d'utilité. Il faut seulement que l'on se pénètre bien de la nécessité de cette transformation, qu'on la considère comme un acte de justice et de progrès, qu'on ne se leurre plus de ce rêve si cher aux théoriciens, que la révolution doit se borner à une prise de possession de la plus-value et que la production et le commerce peuvent rester ce qu'ils sont de nos jours. Là est, selon nous, toute la question. Offrir aux cultivateurs, en échange de ces produits, non pas des bouts de papier, quelle qu'en soit l'inscription, mais les objets mêmes de consommation dont le cultivateur a besoin. Si cela se fait, les denrées afflueront dans les cités. Si cela n'est pas fait, nous aurons la disette dans les villes et toutes ses conséquences, la réaction et l'écrasement.